Jean-François Zigel. La preuve par Z. Une émission de France Inter faite à la main et pour les oreilles. Bonjour. Beethoven se laissait entraîner par les rythmes latins des percussions cubaines, un enregistrement des Class Brothers qui annonce bien la couleur de notre émission de la semaine, entièrement consacrée au détournement beethovenien pratiqué par le jazz, le rock et la chanson, mais aussi par certains compositeurs classiques comme Saint-Saëns ou John Adams. Et tandis que la semaine dernière nous étions en terre de symphonie, nous voici cette semaine du côté du piano. Certains d'entre vous auront reconnu à l'instant le premier mouvement de la célèbre sonate pathétique, opus 13 et 8e des 32 sonates, pour les amateurs de classement. Et puisque nous parlons de la pathétique, tenez, pourquoi pas un petit jeu de comparaison à partir de son si célèbre mouvement lent ? On commence par l'original ? Thank you. merveilleux phrasé du pianiste allemand Wilhelm Kempff nous remettait en tête le début du mouvement lent de la sonate pathétique. Un thème immortel qui nous émeut tout autant lorsqu'il est joué par les 10 cuivres du German Brass, un ensemble spécialisé dans les transcriptions de grands compositeurs classiques. 4 trompettes, 3 trombones, 2 cors et un tuba, pour une sonorité d'une étonnante douceur, profonde, chaude, veloutée. Et maintenant, sans rien modifier des notes qui forment cette sublime mélodie, j'avoue bien apprécier les enrichissements harmoniques suaves, presque un peu trop sucrés, du pianiste polonais Konstanty Wieleński, quelque part entre le lounge et le jazzy. Sans oublier le tube des tubes, le un peu trop célèbre Midnight Blue, qui dans les années 80 domine les hit-parades, popularisant pour le meilleur et pour le pire notre beau thème romantique. Une idée de Charlie Scarbeck qui fait alors appel à la chanteuse d'opéra Louise Tucker pour cette improbable version électropop. Dans le grave, c'était la voix de Charlie Scarbeck, dans l'aigu, celle de Louise Tucker. Pour la petite histoire, peu de temps après Midnight Blue, tandis que Charlie Scarbeck s'attaquera à Debussy et à Chopin, Louise Tucker reviendra de son côté à sa carrière de mezzo-soprano classique, enchaînant oratorios et opéras, sans synthétiseur cette fois. Donc, à vous de choisir, chers auditeurs, entre l'original pour piano, la transcription pour cuivre, la version jazz ou les improbables synthés de la variété internationale. Et à propos de variété, Je dois bien avouer que je ne suis pas non plus très friand de Gainsbourg empruntant le premier mouvement de la célèbre sonata Passionata pour sa chanson « Malou Marilou ». Je me demande même si ce n'est pas la plus mauvaise chanson qu'aura signée le grand Serge au cours de toute sa carrière. Pauvre Marilou. Gainsbourg la traite successivement de champouineuse et de petite gueuse avant de la menacer. « Si tu bronches, je te tords le cou, un faux pas et te voilà au trou ». La chanson a beau reprendre un fragment de l'arpège caractéristique de la Passionata, ça ne semble pas pour autant adoucir notre éternel macho. Tenez, je vous ai préparé un petit montage. À ma droite, Serge Gainsbourg. À ma gauche, Beethoven par Claudio Arrau.
Oh Marilou, oh Marilou, oh Marilou, petite gueuse, champouineuse de mes rêves. Marilou, si tu branches, je te donne le coup.
Oh Malou, oh Malou,
oh Marilou, tiens-toi à carreau, la vie est brève.
Oh Malou, oh Malou,
oh Marilou, un faux pas. Voilà au trou.
Merci Serge, merci Claudio et merci Ludwig, bien sûr. Alors, toujours dans les années 70, trouverez-vous plus convaincante la version rock du rondo final du troisième concerto pour piano, avec trompette, saxophone, batterie et orgue à monde obligé. Exception, c'est à vous. Mais à vrai dire, dans la même période, je crois que j'ai mieux. Voici le final de la 12e sonate et son flot ininterrompu de double croche, interprété par les Swingle Singers, ce merveilleux groupe vocal fondé au début des années 60. Un Beethoven tout en onomatopée et la démonstration que la voix peut être aussi précise et virtuose que le clavier.
Thank you.
Pas résister à vous faire entendre, juste après les Swingle Singers, le texte original sous les doigts de l'immense pianiste russe Émile Gilels. Mais comme je vous le disais en début d'émission, il n'y a pas que le jazz, le rock et la chanson qui se soient inspirés de notre cher Ludwig. Il y a d'abord les compositeurs du 19e siècle, qui presque tous considéraient Beethoven comme un véritable dieu. C'était par exemple le cas de Saint-Saëns, qui à l'âge de 39 ans, en 1874, se saisit d'un thème de son idole comme point de départ d'une série de variations à deux pianos que j'affectionne particulièrement. Ce qui est drôle, c'est que le thème choisi par Saint-Saëns est vraiment tout sauf un tube. En l'occurrence, la partie centrale du menuet de la 18e sonate, en enchaînement d'accords plus qu'un véritable thème, simple moment de repos avant la reprise du menuet. Nous écoutons ce fragment de sonate, interprété par le grand Wilhelm Kempff. Et maintenant, première variation de Saint-Saëns, avec ses traits de virtuosité répartis alternativement aux deux pianos, comme dans une sorte de petite joute amicale. Tiens, regarde ton arpège, je le joue encore mieux que toi. Voici maintenant la sixième variation, tout en tri et en ornement. Malicieuse, comme si les deux pianistes avaient mis leur perruque et se faisaient des révérences. Thank you. Et pour finir, une variation en accord répété qui met à rude épreuve nos deux pianistes Franziska et Florian Gemser, puisqu'ils alternent d'un bout à l'autre leurs brèves interventions sans jamais jouer une seule note en même temps, un peu comme dans les célèbres kangourous du Carnaval des animaux. Restons du côté des romantiques avec un étonnant rondino pour violon et piano du violoniste et compositeur autrichien Fritz Kreisler. Le thème principal de cette composition utilise en effet les quatre premières mesures d'un rondo de jeunesse de Beethoven, également pour violon et piano. On y retrouve toute la joliesse, toute la finesse d'écriture du célèbre violoniste-compositeur qui étudia un temps au Conservatoire de Paris avant de devenir l'une des stars du violon de la première moitié du XXe siècle. Je me souviens qu'à l'époque où j'accompagnais au piano le grand violoniste polonais Henryk Schering, nous terminions presque invariablement nos séances de travail par cette charmante petite viennoiserie. Et ce n'est qu'à l'issue de cette bluette qu'Henryk Schering, qui parlait fréquemment de lui à la première personne du pluriel, déclarait sur un ton qui ne souffrait aucune contradiction « Nous sommes un peu fatigués maintenant. Nous allons nous arrêter et nous reposer. » Rondino sur un thème de Beethoven de Fritz Kreisler, excellemment interprété par le violoniste Barnabas Kelemen, accompagné au piano excusez du peu par Zoltán Coxis. Plus proche de nous, le compositeur américain John Adams signe en 2014 une étonnante composition postmoderne pour deux pianos, pour moi la plus convaincante et la plus réussie de toutes ses œuvres dédiées au clavier. Un génial kaléidoscope, à la fois heurté et répétitif, qui à partir du scherzo de l'avant-dernière sonate de Beethoven, crée un étrange objet sonore, mangé de doutes et de silences, zébré d'une apparition de la 9e symphonie et de réminiscences des variations diabelli. Alors avant de profiter pleinement de la singulière énergie rythmique de cette pièce, je vous propose d'entendre le thème du scherzo de la 31e sonate par Wilhelm Backhaus. Et maintenant, place à l'écriture à la fois répétitive et surprenante de John Adams. De John Adams, nous écoutions Roll Over Beethoven, un titre bien sûr emprunté à Chuck Berry, mais dont l'écriture pianistique, le formalisme et la scansion rythmique me font plus penser à Stravinsky qu'au célèbre pionnier du rock'n'roll. Et Beethoven en valse-musette, ça donne quoi? Beethoven est certes mort 2 ans avant l'invention de l'accordéon, mais il est l'un des premiers compositeurs classiques à avoir écrit des valses. C'est sans doute ce qui a inspiré l'accordéoniste française Domi et Maurine pour sa pièce Tempête au Balajo. Après une introduction mystérieuse et émouvante, voici la sonate La Tempête qui se met à tournoyer, transportant Ludwig dans le célèbre bal de la rue de Lappe, à Paris, dans le quartier Bastille. Jolie composition, n'est-ce pas, que cette tempête au balajo signée Domi et Maureen, qui mêle avec bonheur les sonorités de l'accordéon et d'un quintet à cordes. Mais voici que le génial pianiste russe Sviatoslav Richter me demande de rétablir Beethoven dans ses droits et de vous faire entendre dans sa version originale le thème ayant inspiré cette élégante valse musette. Le secret de beaucoup de thèmes, en tout cas de ceux qui restent gravés dans la mémoire, c'est d'utiliser un noyau rythmique simple et reconnaissable, et de ne pas avoir peur de le répéter. Palalalam, palalalam, trois brèves, une longue, trois brèves, une longue. Tiens, tout d'un coup, ça me fait penser au fameux thème du destin. Vous savez, celui de la cinquième symphonie. Ta-ta-ta-tam. C'est encore trois brèves et une longue, n'est-ce pas? Brève, 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 longue. Et la lettre à Élise. Pas les premières notes, bien sûr, mais tout de suite après. Ta-la-la-lam, to-li-la-li, to-li-la-lam. Car il m'est impossible, vous le pensez bien, de ne pas évoquer dans l'émission l'inusable, l'inoubliable, la sempiternelle rengaine de la lettre à Élise. Une petite bagatelle pour piano que Beethoven signe en 1810, mais qui ne sera publiée qu'en 1867. Vous vous rendez compte? Le thème le plus célèbre de Beethoven, sans doute son plus grand tube, n'a été découvert que 40 années après sa mort. Et ce n'est pas la seule énigme de cette trop fameuse lettre à Élise. C'est qu'en fait, on ne sait pas du tout qui est Élise. Le prénom ayant vraisemblablement été inventé par l'éditeur, la dédicace sur le manuscrit étant avec le temps devenue complètement illisible. Et enfin, troisième énigme, pourquoi cette composition insignifiante, qui n'ajoute rien à la gloire de Beethoven, est-elle devenue un siècle après l'un des thèmes de musique classique les plus connus du grand public? Dit Ludwig, Si tu avais imaginé que ça tournerait comme ça, est-ce que tu n'aurais pas fignolé, rajouté un bémol ici ou là? Est-ce qu'à ton hélice, tu n'aurais pas pu dire tout ça de vive voix?
Ma voisine ne sait jouer que ça, gna gna gna, gna gna gna. Du matin au soir il n'y en a, la la la, la la la. Que pour Élise, et supposons que je lui dise à ma façon, depuis le temps que tu entends ça, la la la, la la la. Est-ce que ça ne te saoule pas? La la la, la la la. Mais qui était cette Élise qui défrise nos pianos, qui sans fin se carcarise et se grise de trémolo? Dis Ludwig, si tu avais imaginé que ça tournerait comme ça, est-ce que tu n'aurais pas fignolé, rajouté un bémol ici ou là? Est-ce qu'à ton Élise tu n'aurais pas pu dire tout ça de vive voix? La la. Croire qu'Élise écoutait sans arrêt, ce machin qui vraiment ne me fait pas marrer, pas marrer. Oui, mais Élise, elle aimait ça, qu'on lui redise blablabla. Bla, bla. Pourquoi écrire avec un piano, petit marteau, petit marteau, quand c'est si simple avec un stylo? Cette garce d'Élise traumatise le bon Ludwig. S'il envoie ses grosses bises, elle les veut en musique. Ah, si seulement elle avait pu se taper le facteur, on n'aurait pas eu à se farcir tous ces doubles soupirs et tous ces ne m'oubliez pas. S'il avait pensé à lui téléphoner, on n'aurait pas écopé ça. La la la. Chaque jour à l'heure du courrier, je m'en lasserai, mais ça là là, mais ça là là, mais ça me change.
Toute la malice de la lettre ouverte à Élise, une lettre signée de la chanteuse Anne Sylvestre, laquelle peste contre sa voisine, finissant par détester Beethoven au profit du Gai Laboureur de Schumann, autre grand classique des apprentis pianistes. Vous savez que j'ai eu l'occasion de l'accompagner, Anne Sylvestre. Je m'en souviens très bien, c'était en 2011. Quel caractère! À la fois rugueuse et attentive, pimpante et déterminée. Elle nous a quittés en novembre 2020, à l'âge de 86 ans, mais elle reste toujours aussi vivante, n'est-ce pas? Comme vient de le montrer cet enregistrement live d'un concert donné à l'Olympia en 1986. Enfin, heureusement qu'elle n'était pas présente au Lille Piano Festival lorsqu'il m'a fallu, pandémie oblige, improviser sur la lettre à Élise devant la salle du Nouveau Siècle entièrement vide, souriant au micro et à la caméra comme si c'était de bons amis. Version tango, version valse, version boîte à musique, puis je m'amuse avant de conclure à faire semblant de ne pas retrouver le célèbre thème, oscillant de Titine aux feuilles mortes en passant par la 40e de Mozart.
Thank you.
C'était le 12 juin 2020 au Lille Piano Festival et j'improvisais dans tous les styles sur... Enfin, normalement, vous aurez reconnu. Allez, je vous propose de terminer cette émission consacrée aux transcriptions, arrangements et autres détournements d'œuvres de Beethoven par un clair de lune envoûtant et intense qui semble flotter comme de la brume au-dessus d'un lac. Une vision signée du trompettiste israélien Avishai Cohen, à ne pas confondre avec son homonyme contrebassiste. Avishai Cohen parvient à créer un univers personnel, singulier, onirique, tout en restant fidèle à Beethoven, dont il déroule la lancinante marche funèbre avec quelques libertés mélodiques, mais en en respectant scrupuleusement la structure. version particulièrement planante, atmosphérique, du premier mouvement de la sonate au clair de lune, par le trompettiste israélien Avishai Cohen et son quintet Big Vicious. Une très belle jazzification, si vous me permettez ce néologisme, avec laquelle nous refermons maintenant notre preuve par Z hebdomadaire. Sur le site internet de l'émission, j'ai mis en illustration un étonnant graffiti représentant Beethoven, graffiti réalisé à Bonn à l'occasion du 250e anniversaire de la naissance du compositeur. Sans doute la ville natale de notre cher Ludwig a-t-elle pensé qu'il fallait légitimer le passé par le présent, que ce qu'il était encore convenu d'appeler il y a peu grande musique n'avait désormais droit de citer qu'en faisant allégeance à l'esprit du temps. C'était La Preuve par Z, une émission de Jean-François Zigel, réalisée par Anne Weinfeld et préparée avec Théo Fricono. Chef opérateur du son, Cédric Chatelus. À la semaine prochaine. Et après le journal, vous retrouverez Jean Lebrun pour Intelligence Service.